France Culture.
12h30, c'est l'heure du journal de la rédaction, journal présenté par Jeanne Serrin. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. La catastrophe humanitaire à Gaza doit cesser immédiatement. L'appel de Paris, Londres et Berlin face au risque imminent de famine dans l'enclave palestinienne. Israël annonce la reprise des largages d'aide médicale et de nourriture dans les prochains jours. Pendant ce temps, les stocks pourrissent à la frontière. Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. L'armée russe intensifie son offensive au nord-est de Pokrovsk où de violents combats ont lieu en ce moment. La forteresse ukrainienne menacée d'encerclement par les forces de Moscou, analyse à suivre. Elle en appelle à la responsabilisation des Français. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, détaille ce matin ses premières pistes pour réduire les dépenses de santé. La CGT dénonce une aberration en termes de santé publique. Thibaut InShape, Juju FitCat, Marine Leleu, ils sont les influenceurs sportifs les plus suivis d'Internet. Mais leurs conseils ont-ils vraiment des effets sur la pratique du sport? Une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question. On en parle à la fin de ce journal. Dans la bande de Gaza, la population gazaoui meurt de faim. Toute cette semaine, les appels se sont multipliés pour alerter sur le risque de famine dans l'enclave palestinienne, empêchée d'accéder à l'aide humanitaire à cause d'un blocus opéré par les autorités israéliennes. Hier, Paris, Berlin et Londres ont tenté d'accentuer la pression sur Israël en lançant un appel conjoint pour exiger la fin de la catastrophe humanitaire en cours. Dans ce contexte, l'armée israélienne a annoncé la reprise des parachutages d'aide humanitaire pour les Gazaouis d'ici quelques jours. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem, dans l'attente de ces parachutages, une partie des denrées stockées à la frontière pourrissent et des tonnes de nourriture sont contraintes d'être détruites.
Oui, alors que l'on parle de famine à Gaza, Israël a détruit de l'aide humanitaire périmée, de la nourriture, notamment de l'huile, des bouteilles d'eau, mais aussi des médicaments arrivés à leur date d'expiration, ont été enterrés dans d'énormes fosses et même, dans certains cas, incinérés. En tout, des tonnes de denrées. C'est une information qui provient d'un responsable militaire israélien cité par le diffuseur public israélien Kan 11. Le COGAT, l'organisme militaire chargé de la coordination, montre depuis des semaines des images de palettes d'aide humanitaire exposées en plein soleil au point de passage entre Israël et Gaza. Alors, Israël nie la famine à Gaza et impute au Hamas, mais aussi à l'ONU, la pénurie d'aide dans l'enclave palestinienne. Ce même responsable militaire israélien cité par la télévision publique émet des doutes sur l'efficacité de la reprise de largage aérien d'aide humanitaire annoncée hier. Nous avons déjà tenté ce genre d'opération et cela s'est terminé par des échecs retentissants, souligne-t-il. Malgré tout, et c'est le résultat de pressions internationales sur Israël, l'armée a annoncé la reprise prochaine de ces largages dans un premier temps avec la Jordanie et des avions des Émirats Arabes Unis. D'autres pays étrangers pourraient suivre, une technique de distribution de l'aide qui, selon les rapports d'ONG, est peu efficace, très onéreuse et surtout extrêmement dangereuse.
Michel Paul à Jérusalem, merci. Le Cambodge appelle au cessez-le-feu après plusieurs jours d'affrontements avec la Thaïlande au niveau du triangle d'Émeraude, leur zone frontalière commune. 33 personnes sont mortes selon un dernier bilan qui dépasse déjà les précédents enregistrés lors de la dernière flambée de tensions entre 2008 et 2011. Plus de 175 000 personnes ont dû fuir leur domicile. En Ukraine, l'étau russe se resserre sur la ville stratégique de Pokrovsk. Des combats acharnés ont lieu en ce moment, alerte le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Située dans l'ouest de l'oblast de Donetsk, la ville est un nœud logistique et ferroviaire stratégique où l'armée russe progresse de jour en jour et tente d'encercler la zone. La correspondance à Kiev de Bastien Bory.
C'est désormais fini, les services d'urgence et leur aide humanitaire n'entrent plus à Pokrovsk. L'armée russe applique à la ville sa méthode habituelle, celle d'envoyer des saboteurs rompre moyens de communication et lignes logistiques, isolant de leur base arrière les forces ukrainiennes engagées sur le front. C'est le secteur qui reçoit désormais le plus d'attention de notre état-major, déclare un président Zelensky inquiet à deux titres, car au-delà de la pression militaire constante, la présence de 1380 civils vivant toujours à Pokrovsk complique un peu plus la tâche de l'armée ukrainienne, là où 300 frappes d'artillerie russe ont été recensées ces dernières 48 heures. En regardant une carte du Donbass, tout observateur se rendra compte de l'importance de cette ville. Plaque tournante, routière et ferroviaire offrant à qui la contrôle un avantage stratégique sur Dnipro à l'est et Kramatorsk au nord, deux zones de ravitaillement majeures. Mais en face, l'avancée de l'armée russe ne semble pas inexorable. 10 kilomètres pris là-bas aux Ukrainiens en un an depuis juin 2024, avant une perte de vitesse ces dernières semaines. Le général Sirski, commandant en chef des forces ukrainiennes, assure que ses troupes tiennent. Les pertes ennemies sont lourdes, les contre-attaques se poursuivent et les défenseurs, dit-il, font preuve d'une résilience exemplaire. Pendant ce temps, les munitions et systèmes de défense aérienne additionnels promis par l'Occident arrivent au compte-gouttes, forçant Kiev à doubler sa production locale de drones intercepteurs pour protéger les zones civiles des attaques russes. Car côté diplomatie, rien n'indique à ce stade que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontreront fin août, tel que proposé par ce dernier.
Bastien Boré, correspondant de France Culture en Ukraine. Et ce matin, la Russie revendique la prise d'un nouveau village dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine. Donald Trump, lui, est arrivé en Écosse. Le président américain doit rencontrer ce week-end la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Objectif, obtenir un accord sur les droits de douane. Sur place, les forces de l'ordre se préparent à d'importantes manifestations en marge de cette rencontre. Au Chili, les héritiers d'Augusto Pinochet sommaient de rembourser 16 millions de dollars à l'État. L'ancien dictateur, mort en 2006, accusé par la justice chilienne de fraude fiscale et de détournement de fonds publics en lien avec l'affaire Riggs, des faits opérés durant sa présidence entre 1973 et 1990. À Santiago, les précisions de notre correspondante Naila Dorouané.
Riggs Bank, c'est le nom de la banque américaine qui a secrètement abrité plusieurs comptes appartenant à Augusto Pinochet et sur lesquels se trouvaient cachés des millions de dollars. En 2004, une enquête révèle l'affaire. Pinochet est poursuivi pour fraude fiscale et détournement de fonds publics, mais il meurt à peine deux ans plus tard sans être condamné. S'en suivront près de 20 ans de batailles judiciaires visant ses proches pour qu'il restitue la fortune colossale détournée par le dictateur dans les années 1980 lorsqu'il était à la tête du Chili. Le dernier épisode en date, c'est donc cette décision d'un tribunal de Santiago qui donne raison au Conseil de défense de l'État. Ce dernier avait déposé plainte en 2018 contre les héritiers d'Augusto Pinochet pour fraude au profit d'autrui. 16 personnes sont visées, parmi lesquelles l'épouse de Pinochet, morte en 2021. Les héritiers pourront faire appel. Ironie de l'histoire, cette décision a été rendue alors que dans le même temps, deux des cinq enfants de Pinochet se disputent l'héritage immobilier de leur père devant les tribunaux. Augusto Pinochet n'a pas non plus été condamné pour les nombreuses violations aux droits de l'homme perpétrées sous son régime, 3200 opposants assassinés aux victimes de disparitions forcées et des milliers de personnes soumises à la torture.
Naila Derouané. En France, la justice reconnaît l'indignité des conditions de détention à la prison de Toulouse-Cès. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rendu cette décision après avoir été saisi par la branche française de l'Observatoire international des prisons. Le magistrat qui enjoint l'État de prendre 12 mesures concrètes et immédiates, parmi lesquelles la protection des personnes vulnérables et l'amélioration de l'hygiène et de la propreté. Cette victoire juridique est un signal fort, a réagi de son côté l'OIP. Le gouvernement français, lui, continue de dévoiler ses pistes pour redresser les finances publiques avant la présentation de son projet de budget prévu à l'automne. Après les premières annonces de François Bayrou le 15 juillet dernier, on en sait un peu plus aujourd'hui sur la feuille de route de l'exécutif pour réduire les dépenses en matière de santé. Objectif 5 milliards d'euros d'économies l'an prochain dans ce domaine. Pour y arriver, ce matin, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille, Catherine Vautrin, dévoile des premières mesures dans une interview accordée au journal Le Monde. Bonjour Julien Groire.
Bonjour Jeanne.
La ministre demande notamment un effort de responsabilisation aux Français.
Il faut arrêter avec cette idée que l'assurance maladie, c'est gratuit et j'y ai droit. Tel est le nouveau mantra répété par Catherine Vautrin, une manière de donner le ton pour justifier que le secteur de la santé sera mis à contribution et notamment les patients en première ligne de ces nouvelles propositions. Mais Catherine Vautrin... Elle concerne tout d'abord les franchises médicales. Ces propositions, ce sont les montants qui restent à la charge du patient pour les médicaments ou les consultations. Ils étaient déjà passés de 50 centimes à 1 euro l'année dernière et ils doubleront à nouveau, comme l'avait déjà annoncé le Premier ministre il y a deux semaines. Catherine Vautrin va plus loin. Le plafond annuel de ces dépenses va lui aussi doubler. Les associations de patients dénoncent une taxe sur la maladie.
Autre dispositif, Julien, évoqué par le gouvernement, celui des affections de longue durée, les ALD.
Oui, ce sont des maladies dont la gravité et la durée nécessitent un traitement long et coûteux, comme une insuffisance cardiaque grave, par exemple, ou un diabète de type 1 ou 2. Aujourd'hui, 13 millions de personnes sont concernées par ce régime et bénéficient d'une couverture à 100% par l'assurance maladie. Le gouvernement trouve qu'ils sont trop nombreux et souhaite réduire leur nombre. Enfin, concernant les arrêts maladie, la ministre de la Santé et du Travail a entendu la volonté de François Bayrou de mettre fin à une dérive. Catherine Vautrin annonce vouloir limiter chaque premier arrêt de travail à 15 jours, 30 en cas de sortie d'hospitalisation. La ministre veut également mettre à contribution les employeurs pour qu'ils prennent en charge les arrêts maladie jusqu'au 7e jour. Une proposition qui pénalisera les travailleurs les plus précaires, selon Denis Gravouille. Il est secrétaire confédéral de la CGT en charge de l'emploi.
Il s'agit d'un nouveau transfert de la sécurité sociale vers les complémentaires santé pour ceux qui en auront une. Et donc, ça veut dire tout simplement que les plus précaires ou ceux qui travaillent dans les petites entreprises vont devoir avoir des jours de carence supplémentaires, c'est-à-dire ne pas être indemnisés sur les arrêts de moins d'une semaine. Donc, c'est le contraire de la sécurité sociale. Et c'est même une erreur en termes de, une faute en termes de santé publique, parce que les gens qui ne se soignent pas, ils contaminent les autres. Et parfois, un arrêt d'une semaine pour la grippe, c'est particulièrement dangereux d'aller travailler, y compris pour ses collègues. C'est une aberration en termes de santé publique, c'est une économie en supposant que, en gros, les gens trichent, et nous ne pensons pas que la majorité des gens trichent. La fraude aux prestations sociales, c'est toujours un infime du côté des salariés, hein. Il y a quelques professionnels de santé qui abusent, mais du côté des salariés, c'est très peu de monde.
Ces propositions doivent faire l'objet de discussions avec les partenaires sociaux avant l'examen à l'automne du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Merci Julien Groard. Un migrant est mort ce matin après avoir tenté de traverser la Manche. Il a été retrouvé sur une embarcation qui avait fait demi-tour pour retourner sur les côtes françaises. Les circonstances du décès restent encore à déterminer. Une enquête a été ouverte. Ce nouveau drame s'ajoute aux 17 personnes mortes depuis janvier en tentant de rallier l'Angleterre par la mer. 4 hommes de nationalité bulgares renvoyés devant un tribunal correctionnel. Ils seront jugés en fin d'année, soupçonnés d'avoir tagué les mains rouges sur le mémorial de la Shoah à Paris en mai 2024. 3 de ces hommes sont en détention provisoire, le 4e est toujours en fuite. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et pourra être jugé en son absence. Ils sont les premiers sur le podium des influenceurs et il est aujourd'hui quasiment impossible de passer à côté de leurs publications. Conseils nutritionnels, vidéos d'entraînement, les créateurs de contenu sportif gagnent de plus en plus en popularité. Mais peuvent-ils faire évoluer les politiques de santé, en particulier chez les jeunes? Une équipe de différentes universités en Normandie s'est penchée sur le sujet. Inès Figuigui.
Thibaut InShape est depuis l'an dernier le youtubeur français le plus suivi, avec plus de 26 millions d'abonnés. Cet influenceur sportif s'est récemment retrouvé à interpeller Emmanuel Macron sur des questions de santé.
Monsieur le Président, aujourd'hui en France, un adulte sur deux est en surpoids ou en situation d'obésité. Pour les enfants, nous parlons d'un enfant sur quatre avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Combien de générations faudra-t-il sacrifier pour comprendre que la sédentarité et l'obésité sont des problèmes de santé publique majeurs qu'il faut prendre au sérieux? Merci à vous pour votre réponse.
Il est aussi le plus cité par les 3500 jeunes de 18 à 25 ans interrogés par ses chercheurs. Pascal Aizan coordonne ce projet alimentation et numérique.
On voit très clairement que les influenceurs, ils construisent leur légitimité via les écrans, mais qu'il y a une extrapolation de cette légitimité. Voilà. Quand on regarde par exemple aussi les influenceurs food, ils vont dans des émissions de télé, ils écrivent des ouvrages sur le bien-être via l'alimentation, et on voit que c'est la tendance. Ils élargissent un peu leur influence au-delà des écrans. C'est clair que il y a quand même ce côté, on sort du numérique. Clairement, il faut une régulation.
En adoptant les codes de leur génération, les influenceurs peuvent devenir un atout pour les politiques publiques de santé, comme Squeezie et la campagne de Santé publique France, en 2-2, lancée en plein Covid pour aider les jeunes à mieux manger avec un petit budget. Pascal Aizan.
Squeezie, quand il fait ses vidéos YouTube, il incarne un jeune qui ne sait pas cuisiner, qui n'a pas de matériel. Donc, toutes les problématiques des jeunes qui font que parfois ils ont du mal à bien manger. Donc voilà, il reprend tout ça et il montre qu'en 2 minutes, il a quelque chose qui est plutôt équilibré et voilà, avec ce label quand même manger bouger, qui fait que il y a quand même une caution scientifique dans ses propos.
On va apprendre des trucs, ok, et surtout on va devoir faire ça bien. Normalement, chaque recette est faisable hyper facilement, genre vous tous, vous pouvez les faire.
Mais l'influence a aussi ses dérives, en atteste la popularité du hashtag SkinnyTok, qui encourageait à se priver de nourriture pour maigrir. Une tendance bloquée par TikTok en juin dernier, à la demande de Clara Chapaz, ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique.
Avant de refermer ce journal, un point sur la météo pour cet après-midi et des fortes perturbations attendues sur l'ouest, du Finistère jusqu'en Normandie. Des orages sont aussi à prévoir dans l'est de la France, avec un risque d'orages violents sur la Corse. Le temps sera calme et nuageux sur le reste du territoire. Quant aux températures, il fera 21 degrés à Cherbourg, 23 degrés à La Rochelle, 24 à Vichy et 29 degrés à Marseille. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Alix Forgeot et Lise Leu à la technique.